soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux.
Le Seigneur est avec vous. Nous allons entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait et il disait: heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Et acclamons la parole de Dieu en chantant Alléluia. Frères et sœurs, le texte que nous venons d'entendre dans l'Évangile, que l'on appelle les béatitudes, parce qu'elles parlent de bonheur, elles parlent du projet que Dieu a pour nous. Certains osent qualifier cet extrait de cœur de l'Évangile. Véritablement, sans jeu de mots, il s'agit d'une histoire de cœur. D'ailleurs, la première commence par « Heureux les cœurs purs ». Le cœur étant le centre de direction, si j'ose dire, de nos sentiments, de notre intelligence, de notre liberté dans la tradition juive. Un texte crucial, tellement riche qu'il est lu aujourd'hui, qu'il est lu aussi le jour de la Toussaint, et pour les prêtres qui ont l'habitude de célébrer des funérailles comme des mariages, des moments agréables et d'autres plus tragiques, eh bien, les béatitudes fonctionnent très très bien. Elles nous rappellent l'essentiel, le cœur de l'Évangile. Ces béatitudes font partie de ce magnifique sermon sur la montagne que Jésus va prononcer devant la foule et pour ses disciples, et qui reste effectivement un des joyaux, de la littérature mondiale et aussi de toute la littérature religieuse. Bienheureux, bonheur, oh non pas un bonheur facile, non pas un bonheur mondain trop horizontal, trop facile à accueillir et à recevoir, un peu comme notre monde parfois de consommation qui risque de nous donner des satisfactions très rapidement, en tout cas quand on essaie de les avoir. Ce n'est pas tellement un bonheur de ce type-là, c'est véritablement un bonheur profond, intérieur, une vie digne. Une vie qui a du sens, pas seulement une survie, mais quelque chose qui nous porte plus loin que tout ce qui pourrait être mortel pour nous, tant physiquement qu'affectivement, économiquement, politiquement. C'est véritablement un appel, un projet, un souhait de la part de Dieu. Un bonheur vrai, un bonheur profond. Et pour vous donner un petit exemple très personnel, vous allez me dire c'est encore superficiel, mais pourtant je dois reconnaître que Il contribue, je dirais aussi, un peu à mon bonheur. Depuis des années, depuis que je suis rentré dans la compagnie, j'ai essayé de, à chaque début d'année liturgique, de me mettre à étudier de manière un peu plus profonde tel ou tel évangéliste, celui qui va nous accompagner toute l'année liturgique. Et parfois, ça commence toujours bien, puis il peut y avoir des tas de raisons qui font que, à un moment ou à un autre, eh bien, on s'occupe d'autre chose et puis on oublie parfois le projet. Eh bien, figurez-vous qu'il m'a fallu faire 11 heures de vol pour arriver jusqu'ici et trouver au cours de cette année un groupe biblique. Et qu'est-ce que nous avons choisi ? Travailler Saint Matthieu, celui qui nous accompagne pendant cette année liturgique. Et je suis très heureux de cela. Pas seulement parce que je réalise un bonheur, mais tout simplement parce que, en fréquentant l'Écriture, en la partageant avec d'autres, comme Jésus le faisait sur la montagne, lorsqu'il parlait à ses disciples et à la foule, il y a véritablement une sorte de richesse qui surgit, qui nous interpelle tous, parce que chacun, à sa mesure, peut faire écho à la parole de Dieu. Où en sommes-nous au moment où nous découvrons les béatitudes dans l'évangile de Matthieu ? L'enfance est terminée. Jésus a été baptisé, il est allé dans le désert, et si vous vous souvenez, la semaine passée, Jean-Baptiste a été arrêté. Jésus discerne et puis il se dit, il me faut aller en Galilée. Là-bas, il commence son apostolat en annonçant la venue du royaume de Dieu. Comme Jean-Baptiste, il reprend les mêmes termes. Et puis, très vite, il se choisit 4 compagnons, 4 pêcheurs, pas des grands intellectuels, des gens simples, mais capable de savoir ce que veut dire être heureux. Dans l'évangile de Matthieu, très vite, il essaie dès le début d'identifier Jésus. Et c'est important pour nous. Vous savez que dans les romans, comme dans les films, les premières images sont toujours importantes parce qu'elles disent un peu le ton qui va accompagner l'ensemble du film. Ici, par la généalogie, mais aussi par d'autres procédés littéraires, Matthieu va essayer progressivement d'identifier Jésus, c'est-à-dire nous faire découvrir progressivement toute son importance à travers cette généalogie, mais aussi à travers les rois mages, à travers le songe de Joseph, etc. Toute une série d'événements qui contribuent à mieux découvrir et à annoncer qui est celui qui va bientôt entrer dans le jeu de l'histoire des hommes. Quand les béatitudes arrivent, nous sommes au début du sermon sur la montagne. Et là, on voit l'importance de ce texte. Parce que non seulement il nous dit qui est Jésus, et il suffit d'ailleurs pour nous de regarder et de lire chacune de ces béatitudes et de voir combien elles résonnent aussi dans notre cœur pour identifier Jésus. Qui par excellence se trouve pauvre de cœur. Qui a pleuré? Vous savez que dans l'évangile de Luc, c'est le verset le plus court de toute la Bible. Devant Lazare, Jésus pleura. Un mot. Il pleura devant la mort. Voilà Jésus qui fait partie aussi de ceux qui pleurent. Et il connaîtra cette consolation à travers la résurrection. Qui peut dire qu'il n'est pas doux, qu'il n'est pas assoiffé et affamé de justice? N'est-il pas le miséricordieux par excellence? N'est-il pas ce cœur pur? N'est-il pas un artisan de paix? N'a-t-il pas lui-même aussi été persécuté pour la justice? Ces béatitudes nous disent qui est Jésus. Et lorsque nous essayons de, je dirais, réaffirmer notre foi dans le Christ, nous pourrions prendre ces béatitudes et les proclamer comme le credo en toute liturgie. Mais les béatitudes, c'est aussi une manière de dire qui nous sommes. Qui nous sommes, c'est-à-dire ce que Dieu veut pour nous. Quel est son projet pour nous. Ce à quoi nous sommes appelés. Ce pour lequel nous sommes tournés fondamentalement comme des êtres appelés à être comme le Christ. Je vous l'ai déjà dit, nous ne sommes pas véritablement des chrétiens dans la mesure où c'est à Antioche que le mot chrétien est né pour dire ceux qui suivent le Christ. Mais par le baptême, nous ne sommes pas seulement des chrétiens, nous sommes appelés à devenir d'autres Christ, recevant le même esprit qui est le sien, et donc de connaître le même bonheur dans les choses, dans les événements heureux, comme dans le côté tragique et dramatique de notre vie. Voilà que ces béatitudes sont là, en train de nous dire non seulement la nature profonde du Christ, mais la nôtre aussi. Dans le groupe liturgique que nous avions, quelqu'un m'a posé une question, mais qui veut dire « pauvre de cœur ». C'est quand même étonnant de voir que le mot « cœur » intervient trois fois dans trois béatitudes. « Miséricordieux », c'est une autre manière de dire « pauvre de cœur », et puis « les cœurs purs ». Mais « pauvre de cœur », qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, ce n'est pas un problème cardiaque, bien sûr. Dans Saint-Luc, il y a uniquement « heureux les pauvres ». Dans la communauté de Saint-Luc, il y avait pas mal de pauvres. Et Jésus va adresser à cette communauté, à travers Luc, cet appel, cette consolation, en disant « si vous êtes pauvres, eh bien, vous n'êtes pas rejetés. Il y a quelque chose de plus grand, un Dieu qui vous aime. » Si vous n'avez pas un statut social ou économique suffisamment grand, considérez que Dieu vous aime par-dessus tout. Mais saint Matthieu va spiritualiser très vite la démarche en rajoutant « pauvre de cœur ». Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a un cœur qui est pauvre en compassion, en attention à l'égard des autres. Mais la pauvreté ici de cœur signifie tout simplement que dans ce qui nous constitue, dans notre personnalité, dans notre liberté, y a-t-il véritablement un espace pour accueillir autrui ? Si nous sommes remplis de nous-mêmes, si nous sommes complètement convaincus de que nous avons toujours raison, si nous pensons que ce que nous croyons est absolu, et que cela vaut la peine d'être imposé à tout le monde, alors il nous est impossible de nous ouvrir à la rencontre de l'autre. Il y a la fameuse image que j'ai déjà reprise ici de celui qui mange un gâteau, vous connaissez cela. Le gâteau est délicieux, il est bon. Un deuxième gâteau, youpi, c'est encore bon. Un troisième, un quatrième. Ah, si vous avez la capacité de manger quatre gâteaux, tant mieux pour vous. Un cinquième, là ça commence à devenir un peu beaucoup. Au vingtième, on n'en peut plus. Ce n'est pas que le gâteau soit devenu mauvais, c'est tout simplement parce que tout d'un coup notre estomac est rempli et qu'il est incapable d'apprécier toute la bonté, la beauté d'un gâteau nouveau, si j'ose dire, et qui se présente à la bouche. Nous avons comme ça des gens qui sont incapables de s'ouvrir à la découverte de l'autre, qui n'ont pas d'espace en eux pour accueillir l'autre. C'est ça la vraie pauvreté. L'autre, bien sûr, c'est Dieu. Celui qui est pauvre de cœur, c'est celui qui est capable aussi de donner dans son cœur, à l'intérieur de lui-même, dans ce centre de gouvernance, si j'ose dire, de nos pensées, de nos actions, de nos sentiments, de notre intelligence, un espace à Dieu pour qu'il nous parle. Le bonheur que Dieu propose, c'est précisément que nous puissions lui laisser un espace, un grand espace dans notre cœur, de manière à ce qu'effectivement nous soyons appelés fils de Dieu, que nous puissions nous aussi participer et entrer dans ce royaume des cieux. La dernière parabole, vous la connaissez, elle est plutôt difficile à entendre parce que la communauté de saint Matthieu, à la fin du siècle, déjà même un peu avant, connaissait des persécutions. Et l'évangéliste va faire mémoire de cette parole de Jésus qui dit « Si l'on vous persécute et si l'on dit du mal de vous à cause de moi, eh bien ne vous laissez pas écraser par cela. » Soyez capables de dépasser cette épreuve pour goûter pleinement à cette joie d'être aimé de Dieu. Voilà le projet que Dieu a pour nous, frères et sœurs, et ces béatitudes nous invitent fondamentalement à entrer dans ce projet toujours et toujours. Nous avons à rayonner, je dirais, cette joie, quelles que soient les épreuves. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, quand Jésus lui-même, peu de temps avant de célébrer la dernière scène et d'entrer dans sa passion, il rend des gloires à Dieu d'avoir livré tout cela, fait connaître tout cela aux pauvres, aux fous vus par le monde, à ceux qui n'étaient pas nécessairement des grands ou des sages selon la mesure humaine. Et ça a réjoui Jésus parce qu'il savait que cela ferait de ces hommes-là des hommes heureux, debout, libérés et bientôt sauvés et ressuscités. Alors rendons grâce à Dieu pour cela et demandons-lui dans cette Eucharistie que nous allons continuer à célébrer en accueillant et son corps et son sang, que nous ayons toujours assez d'espace en nous pour pouvoir non seulement l'accueillir, lui, mais le visage, la rencontre, la détresse et les joies de tous nos frères et nos sœurs en humanité.